Pourquoi Afrique ?
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 22 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, les évêques catholiques insistent sur un accord entre les partis en présence avant Noël pour sortir le pays de la crise actuelle.
Au Mali, un gendarme a été tué et un autre blessé dans l'attaque d'un poste de gendarmerie à Saï dans le cercle de Massina.
Controverse en Allemagne, le principal suspect de l'attentat au camion Bélier de Berlin était bien connu comme un islamiste potentiellement dangereux.
En Syrie, les derniers convois d'insurgés et de civils se préparent à quitter Alep.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'Église catholique a exigé hier qu'un accord soit trouvé avant Noël pour sortir la République démocratique du Congo de la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Une solution médiane a été proposée pour trancher les divergences qui persistent au deuxième dialogue sous l'égide de la CENCO. Eddy Sango a joint à Kinshasa l'un des 16 membres retenus dans la commission restreinte des travaux, Georges Kapiamba.
Les travaux se sont passés dans un bon climat et les évêques ont promis de distribuer aux partis un projet d'accord sur lequel ils devront moins travailler.
Mais est-ce qu'il y a espoir qu'on arrive à la conclusion avant Noël comme ils ont demandé?
Oui, j'ai l'espoir parce que les évêques, ils travaillent sérieusement. Ils ont même insisté pour que chacun agisse avec responsabilité en faisant preuve de patriotisme. Et en prenant en compte les cris de la population et surtout leurs attentes.
Y a-t-il eu des avancées?
Globalement, il y a eu quand même des avancées, sans entrer dans tous les moindres détails.
Mais il y avait des divergences jusqu'à ce que les travaux soient suspendus. Mais qu'est-ce qui a changé depuis?
Ayant entendu les uns et les autres, on a promis de faire une proposition devant prendre en compte le point de vue de chacune des parties et à leur proposant des solutions médianes.
Est-ce que c'est déjà là les plans B dont ont parlé les évêques?
Bon, moi, je n'avais jamais entendu parler des plans A et B. Je vous fais juste un compte-rendu de la manière dont les choses se sont déroulées.
Si les évêques doivent trancher, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à vous entendre?
Non, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des divergences, même une seule, il peut toujours faire intervenir le médiateur et c'est ça leur travail, de prendre les divergences en main et proposer aux partis une solution de sortie.
Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que le point qui opposait les partis, c'était entre autres l'avenir du président Joseph Kabila, mais aussi les limites de son pouvoir.
Je ne peux rien vous dire jusqu'ici. Attendons voir ce que sera le contenu de la proposition que les évêques pourront faire demain.
C'était Georges Kapiamba au micro d'Eddy Sango.
Des membres de la Lucha ont été arrêtés hier. 19 personnes étaient encore retenues mercredi à Goma. Ces arrestations font suite à la journée de violence du mardi 20 décembre dans plusieurs villes congolaises. Nicolas Pino a joint un autre militant de Lucha à Goma, Serge Sivia.
Dans le cadre de la campagne Bye Bye Kabila, nous avons organisé un sit-in au niveau du gouvernorat des provinces pour dire que nous, on n'est pas d'accord avec le fait que Kabila, qui n'est plus président de notre pays, puisse continuer à diriger par défi et contre les principes de notre constitution.
Qu'est-ce que vous reprochez à vos camarades arrêtés?
Jusque-là, on ne fait absolument rien qui leur est reproché. Ces derniers temps, le fait simplement de manifester, même si vous êtes non violent et pacifique, est déjà une raison pour être réprimé aujourd'hui.
Si un accord est conclu au sein du dialogue mené par la CENCO, la Lucha soutiendra-t-elle cet accord?
Mais il y a une constitution dans notre pays. La constitution, c'est notre contrat social avec les autorités. Tout quelconque acte qui violerait la constitution ne serait pas la bienvenue. Mais s'il y a des recommandations qui respectent la constitution, en tout cas, on ne fera que les soutenir. Mais là, c'est une discussion qui est légitime, qui est normale, que nous pouvons soutenir tout simplement si elle respecte la constitution. Nous, exactement, nous disons bye bye Kabila. Il a fini ses deux mandats. Et c'est dernier, et donc il doit quitter, quoi. C'est tout normal.
C'était Serge Sivia de Lucha à Goma. Selon le chef du bureau adjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme à RDC, 19 personnes ont été tuées mardi à Kinshasa, Lubumbashi et Matadi et 45 autres blessés dans les violences qui ont marqué la fin constitutionnelle du dernier mandat du président Joseph Kabila.
Merci à Nicolas Pinault et à Eddie Sango pour ce dossier sur la RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, un gendarme a été tué et un autre blessé dans l'attaque d'un poste de gendarmerie à Saï, dans le cercle de Massina. Cette zone de la région de Ségou est le fief d'Amadou Koufa et de ses hommes. Le point avec Kassim Traoré.
C'est aux environs de 17h que des assaillants, au nombre de 6 sur des motos, se sont dirigés vers la brigade de la gendarmerie de Saï, cercle de Massina. Ils ont immédiatement ouvert le feu sur deux agents présents, tuant l'un et blessant grièvement l'autre, avant de repartir comme ils étaient venus. Selon le maire de la localité, en compagnie d'une délégation, ils étaient venus à Bamako pour signaler aux autorités en charge de la sécurité la présence dans la zone de l'interfleuve des djihadistes se réclamant du prédicateur Amadou Koufa. A rappeler que ces djihadistes ne sont pas à leur premier forfait. Ils ont régulièrement attaqué la foire hebdomadaire de Matoumou, les villages de Si et de Tchontché, entre autres. Avant cette attaque, les éléments de la DGC malienne ont mis la main sur deux lieutenants d'Amadou Koufa, le leader du mouvement terroriste Ansardine de Massina. C'était le dimanche dernier, dans une mosquée de Bamako à Banankabougou. Il s'agit de Boubacar Cissé alias Bouri, une quarantaine d'années, marié et père de 10 enfants. Il est commerçant domicilié à Mopti. Il est l'un des intimes du djihadiste Amadou Koufa. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'armée dit avoir libéré 1880 civils des mains de Boko Haram et capturé plus de 500 combattants au cours de la semaine écoulée dans la forêt de Sambisa, bastion du groupe islamiste dans le nord-est du pays.
En Allemagne, une polémique sur les dysfonctionnements des autorités prenait de l'ampleur hier. La raison, le Tunisien considéré comme le principal suspect de l'attentat au camion Bélier de Berlin, n'a jamais été arrêté alors qu'il était identifié comme un islamiste potentiellement dangereux. Jean-Roger Bion fait le point.
La police allemande a lancé contre Anis Amri, 24 ans, une chasse à l'homme à l'échelle européenne mercredi, près de deux jours après l'attentat qui a fait 12 morts et que le groupe État islamique a revendiqué. Son portefeuille et ses papiers avaient pourtant été découverts dans le poids lourd qui a ravagé lundi soir un marché de Noël. Mais les policiers se sont focalisés toute la journée du mardi en priorité sur un suspect pakistanais finalement mis hors de cause et libéré. Anis Amri était pourtant bien connu des policiers, du centre de lutte antiterroriste et du parquet. Pendant de l'année 2016, il avait été placé sous surveillance à Berlin car suspecté de préparer un cambriolage pour financer l'achat d'armes automatiques et un attentat. L'enquête a été abandonnée en septembre, faute d'éléments probants. Sa demande d'asile a par ailleurs aussi été rejetée, mais son expulsion a été bloquée par son pays d'origine. Malgré cette longue liste de suspicions, il a été laissé en liberté par manque de preuves.
La Russie rend aujourd'hui un hommage national à son ambassadeur assassiné en Turquie, un meurtre qu'Ankara attribue au réseau du prédicateur Fethullah Gulen. Moscou, pour sa part, juge qu'il est trop tôt pour désigner les responsables.
En Syrie, les derniers convois d'insurgés et de civils se préparent à quitter Alep, deuxième ville du pays, en passe d'être totalement reprise par le régime du président Bachar al-Assad après plus de 4 ans de combat. Environ 30 000 personnes ont été évacuées depuis jeudi dernier du réduit rebelle d'Alep que les bombardements du régime ont réduit en ruines. D'après un nouveau chiffre du Comité international de la Croix-Rouge fourni à l'AFP, tous les blessés et les malades dans un état critique ont été évacués, souligne l'organisation.
Le dialogue entre la Russie et les États-Unis est gelé à presque tous les niveaux, a affirmé mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que les relations entre les deux pays traversent la pire crise depuis la fin de la guerre froide. Gabi Dorsil pour les détails.
Deux dossiers constituent les principales pierres d'achoppement entre Washington et Moscou, le conflit syrien et la crise ukrainienne. Les Américains et leurs alliés n'ont toujours pas digéré l'annexion de la Crimée en 2014 et le soutien présumé de la Russie aux rebelles dans l'est de l'Ukraine. En Syrie, la crise d'Alep-Est a mis en lumière l'ampleur des désaccords entre les deux pays. Mais si Moscou qualifie le dialogue comme étant au point mort, Le département d'État souligne que l'engagement diplomatique à l'égard de la Russie tenait toujours sur un grand nombre de questions, notamment sur le dossier syrien, pour répéter le porte-parole John Kirby. Le secrétaire d'État John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov se sont entretenus par téléphone à 3 reprises depuis le début du mois, mais sans succès. « Nous ne nous communiquons pas ou réduisons au minimum les contacts », a dit le porte-parole du Kremlin. Et ce nouveau dossier de piratage électronique pour influencer l'issue de la présidentielle américaine du 8 novembre n'est pas pour arranger les choses. En attendant, bien sûr, que le pouvoir change de main à Washington le 20 janvier, puisque Donald Trump et Vladimir Poutine ont tous deux exprimé l'espoir d'un dialogue constructif.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Salwa Jafari.
On commence avec Coca-Cola. Le géant américain a annoncé le rachat de 54,5% de Coca-Cola Beverages Africa, qui assure la production et la distribution de 40% des volumes de la compagnie d'Atlanta en Afrique, pour un montant de 3,15 milliards de dollars à Anheuser-Busch InBev, leader mondial belgo-brésilien des bières et principal embouteilleur mondial de PepsiCo. Le Bénin prévoit de dépenser jusqu'à 15 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour des projets agricoles, touristiques et d'infrastructures. Selon son ministre des Finances, le pays boostera ses fonds en augmentant les recettes fiscales et les emprunts. Sur les marchés locaux et régionaux, le gouvernement financera environ 40% de son programme de développement, tandis que le secteur privé financera le reste. Enfin, la Libye a rouvert 2 de ses plus grands gisements de pétrole et a commencé à pomper son premier chargement en 2 ans à partir de son plus grand terminal d'exportation, alors que le pays déchiré par la guerre poursuit son projet de presque doubler sa production en 2017.
Les sports à présent avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La CAF a effectué ce mercredi le tirage au sort du tour préliminaire de l'édition 2017 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.
Le Vita Club de Kinshasa hérite d'un tirage piège avec les Royal Léopards du Swaziland qu'ils avaient éliminés en Coupe de la Confédération 2015. Le reste du tirage, on fait le point avec Élisée Ungpatin.
Ce sera début février pour les 2 compétitions africaines des clubs. En Ligue des Champions, si le tenant du titre Mamelodi Sundowns est exempté, c'est pas le cas de l'SV Club de Kinshasa. Disqualifié l'an passé pour avoir lié un joueur suspendu, le club congolais va affronter Royal Léopard du Swaziland. Pour le reste, l'AS Standard jouera l'Asfa Yeninga dans un duel sous-régional, tout comme Oroya US Gorée, AC Léopard de Delizy face au Camerounais de l'UMS de Loum, ou encore Coton Sport du Garoua contre les Sud-Soudanais d'Al Tabara. En Coupe de la CAF, les Ivoiriens de Gagnoa affronteront les Burkinabés de l'AS Sonabel, l'Étoile du Congo face aux Équato-Guinéens de Racing, ou encore les Gabonais d'Akanda contre le Renaissance Football Club de Kinshasa. Les matchs retour de cette confrontation auront lieu dans la semaine du 17 au 19 février prochain. Boycon. Élisée Rumpatin, VOA Afrique.
En Allemagne, le choc entre le Bayern et Leipzig a tourné à l'avantage des Bavarois.
Victoire 3-0 du Bayern contre Leipzig, réduit à 10 dès la demi-heure de jeu. Les buteurs bavarois s'appellent Alcantara, Xavi Alonso et Lewandowski. Les leaders de la Bundesliga prennent 3 points d'avance sur leurs adversaires du jour.
Le budget des JO 2020 de Tokyo revu à la baisse.
Le budget des Jeux Olympiques 2020 passe désormais sous la barre des 17 milliards de dollars. C'est ce qu'a indiqué le comité organisateur, mis sous pression depuis plusieurs semaines par le CIO pour alléger la facture. Le coût de ces Jeux Olympiques de Tokyo est depuis quelques semaines au centre des préoccupations, car selon certaines estimations, la facture finale totale pourrait dépasser, tenez-vous bien, les 27 milliards de dollars. C'est 4 fois plus que le montant initial estimé. Allez Drissa, on termine avec vous, avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Milwaukee-Cleveland, 102-113. Minnesota-Atlanta, 92-84. Memphis-Detroit, 98-86. Washington-Chicago, 107-97. Oklahoma City-New Orleans, 121-110. Sacramento-Utah, 94-93. Et Houston-Phoenix, 125-111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Silulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La situation en République démocratique du Congo est suivie de près dans la région, surtout au Congo voisin. Dans ce dernier pays, les opposants au président Denis Sassou Nguesso espèrent qu'une réussite du processus démocratique en RDC aura des effets positifs à Brazzaville. L'un d'entre eux, Marc Mapingu, est porte-parole à l'étranger du général Jean-Marie Michel Mokoko, aujourd'hui en prison. Joint à Paris par Bagassi Koura, il commence d'abord par donner des nouvelles du général Mokoko.
En cette période où on devait tous fêter Noël, il reste en prison avec bien d'autres prisonniers politiques. Les dernières nouvelles, c'est que, en réalité, aujourd'hui, 6 mois après sa détention, il devait être dehors parce que on n'a pas trouvé des preuves importantes et aucune preuve aujourd'hui ne le condamne à ce dont on lui reproche.
Le général Mokoko n'est pas le seul homme politique à avoir maille à partir avec le système à Brazzaville.
Bien sûr, ils sont nombreux. Mais il y a Paulin Makaya, il y a Boukadia et il y a bien d'autres qui sont en prison. Mais en dehors de cela, il y a ce que nous déplorons, c'est que depuis un moment, un certain nombre de prisonniers politiques sont torturés. Aujourd'hui, il y a un qui vient de mourir, qui s'appelle Roland Gambou, qui était un proche de Kombi Salissa. Et il y a eu Kalakala qu'on a torturé et qui lui aussi est dans une situation difficile. Donc nous sommes dans un pays où on ne sait pas ce que deviendront demain tous ceux qui sont torturés ou ceux qui sont en prison.
Vous pensez que ce qui se passe à Kinshasa et la réaction internationale représente une situation de deux poids, deux mesures comparée à Brazzaville?
Oui, bien sûr, parce qu'à Brazzaville, nous avions le même problème. C'était un régime qui était là depuis plus de 32 ans, qui est revenu par le truchement des armes, donc, et qui est là depuis, et qui a, depuis quelques années, mis une constitution qu'elle n'a pas respectée. Nous sommes tristes que notre dossier ne soit pas effectivement vu de la même manière que certains dossiers. Mais ce qui nous encourage au moins, c'est que le peuple du Congo démocratique qui réclame la liberté et toutes ces générations qui ont d'autres attentes soient accompagnées justement par cette communauté internationale. C'est tout notre espoir. Et nous estimons qu'il y a un pont. Il y a un artiste congolais qui, à l'époque, parlait du pont sur le Congo. Nous estimons tout simplement que si demain, les démocrates du Congo démocratique arrivent à terrasser la dictature d'une manière ou d'une autre, mais qu'en traversant le Congo, donc sur ce pont du Congo, bien sûr, on fera tomber aussi une autre dictature qui sévit et qui fait mal aujourd'hui à tous les Congolais et à tous ceux qui croient en la démocratie.
Marc Mapingu, porte-parole à l'étranger du général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidence, aujourd'hui en prison.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte l'ambiance confuse et explosive en RDC alors que le régime réprime la contestation réclamant le départ du président Kabila, dont la fin du mandat officiel est dépassée. Quelle est réellement la situation sur les manifestations meurtrières à Kinshasa, Lubumbashi et ailleurs dans le pays? Que fait la MONUSCO? Où en est la médiation menée par les évêques? Et enfin, quid de l'opposition toujours divisée sur la suite de la transition politique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Niger et à l'appel de plusieurs organisations de la société civile, une marche suivie de meetings a été organisée hier après-midi dans les rues de Niamey. Elle a mobilisé des milliers de manifestants qui scandaient des slogans contre le régime du président Issoufou Mahamadou, accusé de malgouvernance et de corruption. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Sur les pancartes, on pouvait lire « Dieu sauve le Niger, arrêtons la corruption » ou encore « Non à l'aliénation de la souveraineté nationale ». Le pari était osé, mais les organisateurs l'ont relevé. Réussir une grande mobilisation un après-midi sous un soleil de plomb. Sirajou Issa du Mouvement des Jeunes pour l'émergence du Niger et Ali Idrissa du Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab.
Je ne peux pas estimer aujourd'hui de voir des centaines et des milliers de personnes devant moi. Je ne peux qu'exprimer ma satisfaction de voir que le peuple nigérien s'est mobilisé pour dire non à cette gouvernance.
La mobilisation, elle est conséquente. En tout cas, c'est du jamais vu. En tant qu'acteur de la société civile depuis 2005, même 2005, quand nous avons eu à faire une mobilisation, elle n'était pas en tout cas au rendez-vous comme celle-là. Ça prouve les rares bords du peuple nigérien. En tout cas, il y a un amarre du peuple nigérien par rapport non seulement à la mauvaise gouvernance, mais aussi à une corruption de grande échelle.
Malgré la forte chaleur qu'il faisait ce mercredi après-midi, hommes, femmes, grands et petits de diverses couches de la société ont fait le déplacement.
Moi, je suis enseignante. Et en tant qu'enseignante, nous vivons des situations exécrables dans les classes, à l'école. Nos camarades contractuels ne sont pas payés. Et dans la ville, vous voyez bien comment la population souffre. La vie est très chère. Les commerces sont cassés. Ça ne va pas. Ça ne va pas.
C'est le cri de cœur de l'ensemble des Nigériens. L'ensemble des Nigériens se sont rendus compte. Et tout le monde le vit dans sa chair, dans l'âme. Tous les piliers qui font un État se sont effondrés. La politique. Les hommes politiques la font très mal au Niger parce qu'on ne gouverne pas pour soi-même. C'est en cela qu'il fallait apporter, venir saluer ses frères de la société civile.
Les forces de l'ordre étaient visibles sur les principales artères que les manifestants ont empruntées de la place Toumo à celle de la Concertation. L'immense foule s'est dispersée à la fin du meeting dans le calme. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Nigeria, les douaniers ont saisi 102 sacs de 50 kilos chacun, sacs de riz en plastique, destinés à être vendus à l'approche des fêtes de fin d'année dans la capitale économique Lagos. C'est ce qu'on a appris hier auprès d'un haut responsable du service. Les sacs étaient étiquetés « meilleur riz tomate », mais n'indiquaient ni origine ni date de conditionnement. Les douanes pensent que les sacs ont été introduits clandestinement dans le pays depuis la Chine via le port de Lagos, alors que le Nigeria a interdit l'importation de riz afin de stimuler la production locale de cet aliment de base. Arzuma Compaoré a contacté le professeur Tundonu Amosu de l'Université de l'État de Lagos, qui lui explique la différence entre riz en plastique et riz ordinaire et les dangers inhérents à sa consommation.
Quand on a renvoyé un petit film où quand on y met le feu, ça commence à brûler effectivement. La différence du riz ordinaire qui ne peut pas quand même brûler de cette manière. Et j'ai essayé de comparer cela avec le riz local au Nigeria qui est beaucoup plus robuste mais qui est quand même plus facile à consommer. Or, si vous avez du riz qui peut avoir toutes les caractéristiques des plastiques, c'est un peu trop dangereux pour mon goût. Je pense que les autorités, surtout nigérianes, ont besoin de se prononcer là-dessus.
Comment les gens réagissent à cela?
Bon, il y a des gens qui commencent désormais à se méfier du riz importé. Ça nous arrange un peu au Nigeria parce que le riz local, le gouvernement nous invite à consommer local. Ça pourrait être tout à fait à l'avantage de l'agriculture au Nigeria. Mais vous savez que depuis un certain temps, il y a beaucoup de générations qui ont grandi avec l'idée que quand c'est pas importé, c'est pas bon. Vous savez, le riz, c'est vraiment ce que pratiquement tout le monde consomme pendant la période de fête à Noël. Je crois que tout le monde a vraiment besoin de se méfier et peut-être de conduire, pourquoi pas, sa petite expérience, voir si finalement c'est du riz qui peut s'enflammer facilement ou non. Parce que vous savez, les retombées, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais les spécialistes, ceux qui sont au gouvernement, n'ont pas le droit de se taire. Parce que l'ignorance à ce niveau-là, ça va coûter trop cher. Il appartient à nos autorités, ceux qui sont chargés de l'alimentation et des médicaments, de la surveillance, de tout cela, de prendre leurs responsabilités. Parce que s'ils croisent les bras en se disant que, on n'a pas de preuves, n'attendez pas les preuves. Il faut aller au-devant de la situation. Sinon, quand la catastrophe va s'annoncer, je ne vois pas comment ils vont gérer la situation. On a fait la même chose chaque fois qu'il y a eu des urgences. Et moi, je ne voudrais pas qu'on ait des réactions comme celles qu'on a eues dans le cas de l'Ebola. Il faut prévenir.
Le professeur Tundonu Amosu de l'Université de l'État de Lagos. Parlant justement Ebola en Afrique de l'Ouest, 3 ans après, 4e partie de notre série VO Afrique consacrée à l'épidémie, elle s'est propagée en Afrique de l'Ouest de fin 2013 à 2016. Il s'agit de la plus grave jamais enregistrée depuis que le virus Ebola a été identifié en 1976. Plus de 28 000 personnes ont été contaminées, presque exclusivement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 11 000 ont trouvé la mort, selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 ans après, VO Afrique a mené l'enquête en Guinée et en Europe auprès de ceux qui étaient en première ligne de la lutte contre Ebola. Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée, s'est rendu à Guéquédou. Il nous parle aujourd'hui de la vie difficile des survivants.
Après la maladie, vraiment, on vit, mais difficilement.
Sekou était commerçant. Mais depuis leur sortie du centre de traitement, lui et son épouse mènent une vie difficile.
J'avais pris l'argent ici, je suis allé à Zérékouré. J'ai engagé l'argent, j'ai donné les filles vides pour me mettre l'huile. Bon, la maladie m'a attaqué, ils sont allés me prendre, le gars m'a servi de mauvais huile. J'ai perdu l'argent et il ne m'a pas remboursé. Depuis lors, vraiment, rien ne va.
Sakat Kamano, lui, vit avec ses frères et sœurs dont il a la charge. Trouver un emploi reste une urgence pour lui.
Quand il y a un appel d'offres, par exemple, pour un emploi, je me présente. Il y a des amis qui sont là-bas, on postule, il y a les papiers qui sont là. Les gens ne considèrent pas tellement, c'est-à-dire notre présence dans l'acte. Donc, c'est comme ça. Depuis l'urgence ici, ils ont fermé le CTE. Moi, je n'ai plus la chance de travailler avec votre projet ou votre institution.
Si les plus grands s'en sortent difficilement, pour Rose, 13 ans, rien n'a changé.
Tous mes amis, ils s'approchent de moi. Même à l'école, on mange, on s'amuse, tout. Même une seule journée, ils n'ont pas dit que, hey Rose, toi qui es derrière nous, comme tu es guéri de bras, jamais.
Du retour de Guéquédou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-8540. Je répète, 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Nicki Minaj. And boy, got me walking side to side. No. I'm talking to you.
Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.